Allô?
Ouais, Salomé, j'ai une idée pour sororité.
Ah ouais, c'est quoi?
Bah en fait, on pourrait parler de...
hétérosexualité et féminisme.
On a parlé des difficultés de l'amour après MeToo, mais du côté des hommes surtout.
Oui, avec la liberté d'importuner, la misère sexuelle de Catherine Deneuve, etc., etc., on en passe.
Et alors, je comprends que ça les ait déstabilisés qu'on veuille plus être traités comme des bouts de viande prêtes à assouvir leurs désirs. Mais moi, je voudrais plutôt qu'on me parle des difficultés après MeToo du côté des femmes, en fait.
Parce... Oui, c'est vrai, parce qu'après s'être déconstruite, après, maintenant qu'on sait ce qu'on sait sur le féminisme et qu'on sait ce qu'on sait sur la domination masculine, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de relationner avec des humains de genre masculin.
C'est ça. Et Judith Duportail, dans Dating Fatigue, c'est un essai féministe, elle raconte avoir revu son ex à une soirée. Ex dont elle a appris, après l'avoir quitté, qu'il était accusé de faire partie de la Ligue du LOL.
Donc ce fameux boys club dans le journalisme accusé de cyberharcèlement auprès des femmes.
Ouais, et de harcèlement.
Entre autres. Hein.
Ouais, voilà, de harcèlement en général, quoi. Et elle a envie de... Et du coup, à cette soirée, elle a envie de le repécho. Mais en même temps, elle a l'impression de trahir son féminisme et elle veut pas faire partie des gens qui remettent en doute la parole des victimes. Mais en même temps, elle veut pas non plus qu'il ait pu faire ça. Et elle trouve que cette époque est bien compliquée quand on connaît les dessous de la domination masculine et qu'on veut juste repécho son ex.
Bah c'est vrai, je trouve que c'est un bon exemple, notamment du fait que l'amour est en fait quelque chose de politique et qu'il est important de questionner un petit peu notre rapport à l'amour et aux relations.
Ouais, et du coup, pour les relations, la relation commence par la séduction.
Voilà, c'est ça. On drague, on flirte.
C'est ça. Et dans la drague, y a un truc pour les femmes, conscient ou pas, mais de se faire petite.
Mm.
Et je vais le dire, tu vois, direct, moi c'est totalement sexiste et je le sais, mais j'ai plus de mal à désirer un mec qui est plus petit que moi. Et si ça pose pas trop de problèmes quand tu mesures 1m50, moi je fais 1m72 et ça commence à devenir un peu plus complexe.
C'est clair. Et dans son livre d'ailleurs, Mona Chollet, elle démontre ce besoin de se faire petite dans la relation hétérosexuelle comme un système de domination. Parce que voilà, il faut être plus petite, il faut être plus fragile, et en fait il faut être plus soumise, finalement c'est ce qu'on leur demande. Et ce sont des attributs, tout ça, ce sont des attributs qui sont désirables chez les femmes, alors même que chez les hommes, c'est davantage le pouvoir, la puissance, être fort, musclé. C'est des injonctions qui existent pour les hommes, mais qui sont plutôt dégradantes pour les femmes. Enfin, qui ne vont pas être désirables pour les hommes, en tout cas. Pour les femmes, pardon.
Ouais, et alors déjà, en soi, c'est très problématique qu'on romantise et désire cette domination. Mais en plus, pourquoi les femmes sont plus petites?
Mais dis-nous tout, Jamy.
Mais je vais te le dire. Alors, on sait que les femmes sont davantage victimes de malnutrition déjà. Donc,
donc par exemple, les régimes qu'on peut imposer à des très jeunes filles ou qui vont s'imposer elles-mêmes suite à vos injonctions à être très très minces.
Oui, et puis même dans le monde en général, c'est les femmes qui sont les premières victimes des famines ou des choses comme ça.
Bah, j'imagine en plus qu'il y a un truc de faut nourrir les hommes parce qu'ils sont plus, doivent plus manger parce qu'ils sont plus forts, ils ont plus de, je sais pas.
C'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et certaines anthropologues comme Françoise L'Héritier et Suzanne Bordeaux ont avancé l'hypothèse que ce sont nos habitudes sociétales qui font que les femmes sont maintenant généralement plus petites que les hommes. Donc l'habitude à la frustration, une alimentation non adaptée à la perte de faire des règles, parce que ça c'est un truc qu'on prend pas du tout en compte.
Ouais, c'est vrai.
Le fait qu'on se vide de notre sang une fois par mois. Et...
Du coup, ce système, en fait, il incite les femmes à se faire petites, soumises, etc. D'où le fait d'être le plus mince possible, d'ailleurs, parce que comme ça, on prend le moins de place possible. Et quand on dit que, par exemple, trop de muscles, c'est pas beau sur une fille, parce qu'il faudrait peut-être pas qu'elle soit trop puissante et qu'elle puisse te démarrer. Et... c'est vraiment la preuve qu'on n'apprécie pas leur force. Et pourquoi est-ce que les muscles, ça rend les hommes désirables et les femmes indésirables, quoi? C'est vraiment une question...
Voilà, et puis...
D'ailleurs, je pense qu'on fera un épisode bientôt sur le sport, parce que je vais à la salle de sport et je crois qu'on peut faire une étude sociologique sur les salles de sport.
C'est clair. Et les femmes, elles sont aussi incitées à être moins intelligentes. Et moins tout, en fait. Et tout ça pour, finalement, protéger l'ego masculin, parce que, socialement, il faut qu'il soit mieux, plus intelligent, plus brillant.
Ah ouais, c'est désolant, en plus, quand je vois des femmes qui font genre d'être stupides, en fait, quand elles sont dans une situation de séduction. Enfin, je pense que tu vois aussi très bien de quoi je parle.
Ah mais oui, mais moi, le pire, c'est que ça m'énerve beaucoup contre elles, parce que, en fait, je le prends comme une insulte, quoi, en fait... Bah non, non, en fait, on n'est pas stupides et j'aimerais que les mecs arrêtent de croire qu'ils m'apprennent la vie, donc arrêtent de leur faire croire qu'ils ont raison, en fait. Enfin, c'est
et
vraiment...
Puis, vraiment, tu vaux mieux que ça, meuf. Enfin, tu vois, vraiment, si le mec avec qui t'as envie de... que t'es en train de séduire, il veut juste quelqu'un pour combler son problème d'ego, bah, barre-toi. Va c'est voir ça. Ailleurs, va trouver quelqu'un qui célèbre ton intelligence.
Mais en même temps, comment les blâmer quand on sait qu'une femme, une femme diplômée a moins de chances de séduire qu'une femme qui ne l'est pas? Et qu'être brillante, c'est pas un atout puisque ça intimide souvent les hommes, en fait.
Bah ouais, c'est vrai. Ne pas être bruyante, ne pas être brillante. On reste sur des... C'est bref, ça. Les mecs, je sais pas, essayez d'apprendre à aimer la puissance des femmes. Tu vois, comme nous, on peut vous admirer pour beaucoup de choses. Et bah, soyez fiers de fréquenter quelqu'un qui en impose, qui prend de la place, qui parle fort, qui
sait des choses, qui te... Enfin, on peut se faire grandir les uns les autres, quoi.
Bah, c'est ça. Ensuite, prochaine étape, après la drague.
Être en couple.
Wouhou.
Et bah là-dessus, il y a le compte Insta Ta Pensée A. On en a parlé dans l'épisode sur la charge mentale, parce qu'en fait, c'est un compte Insta qui parle de la charge mentale. Salut. Et des difficultés de place et de responsabilité dans le couple, en fait. Donc, endosser un rôle de maman avec ton mec.
Ouais, c'est vrai que c'est dur, ça, quand tu te mets en couple et que tu te mets à habiter avec... avec ton mec.
Même avant d'habiter avec ton mec déjà. Hein. Je pense que déjà ouais. Quand tu te mets en couple, des fois t'as cette.
Moi c'est un truc que je vivais pas trop avant. Mais alors par contre quand on s'est mis à habiter ensemble, j'ai découvert un monde quoi. Un truc où tu remplaces leur daronne. Sur plein de points et puis même sur la charge mentale au niveau du ménage et tous ces trucs là. Enfin, moi pour moi c'était lunaire de s'engueuler sur ce genre de sujet avant d'habiter avec mon mec.
Et en fait, c'est très terre à terre.
C'est ça, et finalement, ça existe, et en fait, c'est chiant.
Mmh. Ça, je suis d'accord. Mais là-dessus, d'ailleurs, Mona Chollet, elle propose... Enfin, sa solution à elle, c'est la non-cohabitation, en fait.
Ok.
Tout simplement. De juste...
Pas vivre avec son mec, même si t'es marié.
Ouais.
Et si t'as des enfants?
T'as pas d'enfants.
Parce que t'es féministe et écolo.
C'est ça. À un moment, faut vivre avec ses valeurs, quoi.
C'est une blague, hein, évidemment.
Enfin... Non, c'est une blague.
C'est vrai que souvent il y a un vrai déséquilibre dans l'investissement, dans la relation. Les femmes, elles assument souvent plus le travail émotionnel, donc d'entretenir une relation aussi, ce qui provoque une charge mentale, que leurs compagnons qui vont un peu se laisser vivre dans la relation et puis des fois vont même pas se rendre compte que ça se casse la gueule ou que leur meuf elle prend tout à qu'elle tient tout à bout de bras quoi.
Ouais, ou même juste démissionne du truc quoi. Enfin. Où ils prennent pas, enfin il y a pas d'investissement, tu vois.
Ouais, c'est acquis.
Ouais, c'est ça, c'est bon, je l'ai eu quoi.
Et ça c'est probable que ça soit dû à la façon dont en fait on apprend l'amour aux femmes et aux hommes, parce que d'abord l'amour c'est un truc de fille.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs Kevin Dieter, D-I-T-E-R, c'est l'auteur d'une thèse sur les représentations de l'amour chez les enfants de 6-10 ans. Et il expliquait dans le podcast de Victor Toyon, le très bon podcast de Victor Toyon, c'est le cœur sur la table. Et les garçons intériorisent très tôt le fait qu'ils s'intéressent de trop près, le fait que s'ils s'intéressent de trop près à l'amour, ils risquent de remettre en question leur identité de garçon et perdre leur statut de dominant. Donc ils sont taxés de bébé, de fillette ou de PD.
Mona Chollet, elle exprime en fait le fait que pour elle, l'amour vaut la peine qu'on lui consacre de la place, du temps, de l'attention. Et je crois quand même que c'est une disposition couramment partagée par les femmes, en fait.
Bah c'est ça. Donc déjà, on n'apprend pas à placer la même importance dans l'amour, selon si on est une fille ou un garçon, à la base. Et il ne faut pas non plus sous-estimer le poids des siècles de patriarcat qui pèsent sur nos constructions.
Pendant des siècles, les femmes étaient dépendantes économiquement et socialement des hommes. Et un bon mariage était nécessaire à leur survie, en fait. Et c'est des choses qui ne s'effacent pas, même en 50 ans de féminisme.
Mais c'est ça. Et ça conditionne encore beaucoup nos comportements, d'ailleurs, comme la misogynie entre les femmes, qui impulse encore une concurrence entre elles.
Oh oui, pitié. Il faut arrêter avec le... Moi, j'ai pas de copine-fille, parce que je m'entends pas avec les filles, je m'entends qu'avec les garçons.
C'est ça. Et d'ailleurs, c'est accentué par une culture du doute, de la remise en question et de la médiocre confiance en soi de la plupart des femmes. Parce qu'on n'est jamais sûr de nous, en fait. Et du coup, forcément, on se compare et du coup, ça
va pas. Tout quoi. Ça crée en fait cette animosité qu'on peut retrouver entre les femmes qui souvent se sentent en position de danger face à une autre femme parce qu'elles considèrent comme plus belle, plus intelligente, parce qu'on n'a pas appris à se valoriser déjà nous-mêmes. Donc, dès qu'on voit quelqu'un qu'on trouve plus joli que nous en face de nous, eh ben, on va avoir tendance à se dévaloriser et du coup, à être dans l'animosité.
C'est ça. Et du coup, ça amène à des comportements hyper néfastes. Alors qu'en fait, on peut tout être ultra belle, être ultra belle et ultra brillante. Et voilà. Et c'est davantage compliqué quand... tu vois, cette concurrence, elle est encore plus compliquée quand ça concerne l'amour, puisque justement, c'est vraiment une sorte de concurrence pour l'être aimé, finalement. Donc déjà, dans la vie, on est en concurrence, mais là, en plus, de base, l'amour, il y a une personne à la clé, tu vois, si tu
veux. Ouais, il n'y a qu'une place possible.
C'est ça. Donc l'héritage de cette dépendance est même encore assez présent dans notre imagerie. Rien qu'à voir la pop culture, notamment avec les dessins animés dont on nous berce, où les princesses sont sauvées par des hommes qu'elles attendent comme étant leur seule raison de vivre.
Quel enfer. Je te jure que si un jour j'ai des enfants, je vois des enfants, je dois garder des enfants, jamais je leur fais regarder ça.
Ouais, je te jure. Mais,
après l'enfance, en plus, on a tout un tas de représentations de dépendance, etc. Et on pourrait parler de 50 nuances de gris, Pretty Woman... c'est quoi le torchon là sur Netflix 365
ah ouais.
DNI, là, genre je sais pas quoi.
Le truc où il se fait.
Ils ont rien compris parce qu'il y a le 2 qui arrive avec exactement le même.
Mais non
je te jure.
Ouais, je l'ai vu du coup pour la science.
Ouais, non, je donne pas mon cerveau à la science comme ça.
Et ils sont. Non, mais moi je voulais voir, tu vois. Et. Non, mais les types quand même. La dame, elle se fait enlever. Et au bout de, je sais pas, je crois. Une semaine, deux semaines, je sais plus, il lui achète des fringues et elle est en mode ouais, bon, d'accord, ok, vas-y, baise-moi. En fait, j'aime bien. En fait, j'aime bien le
syndrome de Stockholm.
La séquestration, je kiffe.
Version très rapide.
Ah ouais, puis enfin, c'est pas du tout travaillé comme un. Ouais, voilà. C'est vraiment, elle tombe amoureuse du mec, quoi. En mode non, mais en fait, t'es vraiment un mec génial. Bref.
Et il y a l'essayiste Colette. Dowling, je ne sais pas comment on prononce, T-O-W-L-I-N-G, qui a d'ailleurs théorisé le complexe de Cendrillon, qui désigne un petit peu cette aspiration à être prise en charge à tous les niveaux. Ça entretient une culture de l'attente des femmes et de cet homme miraculeux qui leur rendrait leur vie si merveilleuse, définirait leur identité et les ferait devenir quelqu'un finalement.
Bah c'est ça.
Quelle tristesse. N'attendez pas, soyez quelqu'un avant d'être avec quelqu'un.
Et en plus, ce sera mieux pour votre couple. Et aussi, dans cette dépendance au couple, je pense que le fait que les femmes ont plus tendance à ressentir le poids du célibat, ça, c'est un fait, tu vois, et c'est aussi dû au fait qu'être célibataire pour une femme, c'est assez mal vu, surtout passé un certain âge.
T'as pas envie de devenir une folle au chat ou une vieille fille ?
C'est ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent masculin.
Non. Ça désigne toujours les femmes célibataires plus âgées, et puis ça, c'est, on est toujours un petit peu sur cette imagerie de la sorcière, tu vois.
C'est ça.
Qui est toute seule dans sa cabane, dans les bois, avec ses chats et sa chouette.
Let's go! Et du coup, bah, de ça découle la dépendance affective aussi. Puisque si on nous inculque que notre identité se construit à travers l'autre, que notre bonheur et notre valeur dépendent d'un tiers, bah, alors forcément, quand on en trouve un, on s'y jette à corps perdu, en fait.
Bah c'est ça, et puis comme tu, en plus, on porte bien souvent le poids émotionnel de la relation, forcément on va s'investir beaucoup pour l'autre, pour lui faire plaisir, nanana, tout en s'oubliant un petit peu au passage, parce que forcément les journées sont pas extensibles, donc quand tu passes du temps à t'investir pour l'autre, c'est du temps que tu passes pas pour toi.
C'est ça.
Et contrairement aux hommes qui, eux, passent moins de ce temps à s'investir pour leur femme ou pour leur amoureuse en général, et bah forcément tu peux t'oublier un peu et ça va très vite, je pense.
C'est ça, et même si, bien sûr, tout ça c'est pas conscientisé, hein, ou pas forcément en tout cas, mais on se doute bien que quand on met autant d'enjeux dans une relation, ça prend énormément de place, ce qui mène souvent à un amour malheureux, précisément parce qu'on en attend beaucoup trop, en fait. Parce qu'on attend qu'il nous fasse devenir quelqu'un, et ça, c'est que personne ne peut te faire devenir quelqu'un.
Et puis en plus, pour une fois, je vais un petit peu me mettre à la place de ces messieurs, et ça doit être hyper flippant.
Ouais.
Ah bah oui. D'avoir quelqu'un qui, clairement. Qui se jette à tes pieds, qui devient, enfin tu vois, qui t'aspire, tu vois, genre...
Après c'est des images, mais oui, c'est vraiment quelqu'un qui attend que tu prennes en charge
la totalité de sa vie,
ouais, et que tu décides pour elle, quoi. Enfin, après c'est caricatural, mais c'est,
oui, bien sûr, là l'image est exagérée, mais voilà. À moindre mesure, c'est quelque chose qui est quand même très courant.
C'est ça. Alors bien sûr, la dépendance affective, elle peut aussi toucher les hommes, hein, mais quand même, je crois que juste en parlant d'expérience, si tout le monde regarde ses potes, sa famille, etc., les femmes la ressentent quand même majoritairement. J'ai l'impression, en tout cas. C'est un avis pas du tout scientifique et totalement...
subjectif.
C'est ça.
Et pour se sortir de cette spirale, du coup, comment on peut faire ?
Eh bien, ça peut être intéressant d'observer son rapport à l'amour, déjà, et aux relations en général. Donc, l'indépendance, c'est pas ne plus entretenir de relations, mais plutôt remettre ses relations à une place souhaitable, en fait. Donc, arrêter de placer le couple ou le crush ou l'homme, en général, au centre... Enfin, l'homme, quand t'es hétérosexuel, je veux dire, hein, bien sûr... au centre de tout, comme étant
la relation la plus importante qu'on puisse avoir.
C'est ça. Donc arrêter d'attendre le salut qui serait amené par un homme miraculeux, selon les mots de Mona Chollet, d'attendre le bon. Ça, cette expression quand même... enfin, vas-y,
Ah, je pense que j'ai trouvé le bon.
Yes, ça y est.
Et Judith Duportail, dans Dating Fatigue, avance l'idée de sacraliser davantage nos amitiés, par exemple. Et moi, c'est un truc que je fais pas mal au collège en parlant des amitiés. Quand tu vois, il y a des enfants qui ont des chagrins d'amitié.
Est-ce que tu travailles dans un collège ?
Oui, je travaille dans un collège.
Parce que là, ouais, je le fais pas mal au collège, ouais. En fait, j'ai 13 ans.
12 ans. Non, mais c'est un truc que je fais parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez des chagrins d'amitié qui font tout aussi mal que des chagrins d'amour. Et c'est un truc que je dis, je leur dis tout le temps, l'amitié c'est comme l'amour, hein, ça va, ça vient, ça fait pleurer, ça rend heureux, c'est tout
mais
pareil.
Oui. Et puis l'amitié c'est quand même un truc génial. Enfin, et il faut le remettre à la place qui lui est due.
Une amitié saine, hein, je précise.
Oui, bien sûr. Bah oui. Ah non, oui, bah je... Une amitié qui te bouffe de l'intérieur, c'est vraiment génial. Et il y a des amis. Non, mais vraiment, quand t'as des amis qui sont sains et bienveillants, c'est quand même... Enfin, c'est très utile. Enfin bref, on va pas... je dis des banalités. Avoir des amis, c'est cool. Bref, mais c'est aussi, du coup, pour se redevenir indépendante et avoir une relation... examiner son rapport aux relations... C'est aussi accepter de ne plus être avec quelqu'un par addiction à son regard, conformisme ou par peur d'être seul. Donc ça, c'est les mots de Mona Chollet.
Ouais, essayer un petit peu de se détacher de la validation du regard masculin. Et là, je pense que non seulement la dépendance serait beaucoup moins présente, mais en plus, on irait vers des relations qui seraient plus saines.
Mais c'est ça. Après, cependant...
Attention, contre-avis. Les femmes... antithèse, synthèse.
C'est ça. Les femmes ont tendance à survaloriser l'amour, puisque c'est un truc de fille, mais les hommes ont tendance à le sous-estimer au contraire. Donc je pense qu'il y a une balance à faire.
Et d'ailleurs, le modèle dominant actuel du féminisme, c'est de s'approprier ce qui est historiquement l'approche masculine de la sexualité, c'est-à-dire avec la froideur, le sexe sans sentiment, etc. Et en vrai, c'est cool, c'est libérateur, mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu à atteindre. Enfin, moi, j'ai pas envie de devenir un mec dans ma façon d'être construite, tu vois.
Ah ouais, c'est ça.
Tu vois, genre un mec, la toxicité masculine, on la connaît, tu vois, et j'ai pas envie de reproduire ça dans ma construction ou dans la future construction des générations à venir, tu vois.
Ouais, moi je pense que ça, ce truc-là de Ken.
Sans amour
et de le faire plein de fois et tout, il y a pas de souci, hein, mais il faut être en accord avec ça. Et,
oui, c'est ça, c'est qu'il faut le faire parce qu'on a envie de le faire et pas parce que c'est stylé quand t'es féministe ou pas. Enfin, tu vois, c'est stylé de pas s'accrocher,
même pas,
quoi.
C'est même pas que les féministes, hein, je pense, c'est vraiment notre génération qui est un peu, où on l'a un peu placé au-dessus, quoi. Alors que bon, voilà. Enfin bref. Et du coup, Mona Chollet, elle parle également du mythe des hommes qui seraient pas dépendants affectivement, d'ailleurs, tu vois. Et le fait que les mecs ont très souvent l'air plus détachés, alors qu'en fait, pas forcément. Et là, je vais juste la citer parce qu'en fait, elle le dit très bien. Ouvrez les guillemets. Si les femmes peuvent si souvent passer pour des créatures capricieuses et tyranniques, aux demandes affectives exorbitantes et les hommes pour des êtres solides, autonomes, à la tête froide, c'est parce que les besoins émotionnels des seconds, contrairement à ceux des premières, sont pris en charge et comblés de manière aussi zélée qu'invisible. Quand une femme est cataloguée comme trop exigeante, elle ne fait bien souvent que réclamer la réciprocité des attentions qu'elle prodigue. C'est stylé.
C'est sans doute pour ça que dans les ruptures, souvent le mec s'en rend subitement compte, se rend subitement compte ensuite de ce qu'il a perdu. Parce qu'en fait, il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait tellement ça paraît normal qu'une meuf subvienne à ses besoins. Contrairement aux meufs qui s'extasiaient quand un mec fait un petit truc.
Tout à fait.
Waouh !
Il a organisé un truc pour nous deux. Genre un truc que j'ai fait 15 fois déjà.
Resto. Okay.
Enfin bref. Mais voilà, mais du coup c'est intéressant parce que je pense pas que, enfin tu vois, je pense pas non plus que les mecs soient des êtres totalement détachés. Enfin tu vois, on leur apprend pas que l'amour est aussi important que pour nous, mais en même temps,
on a tous déjà un copain qui a méga souffert d'une rupture parce qu'il était très très amoureux.
Ouais. Et puis voilà, c'est vrai, un fait quoi, ils sont aussi, enfin ils ont doués. Un cœur quoi.
J'allais dire doués d'émotions, effectivement.
Même s'ils n'ont pas toujours les décrypter, ils ont des émotions quand même.
Ils ne sont pas des corps vides et durs et froids.
Ah mais t'es vivant en fait. Ok, pardon. Alors bref, et Liv Strömquist aussi, dans Les Sentiments du Prince Charles, dit dans la même lignée.
J'avais trop peur de passer pour la fille relou, je voulais passer pour la fille cool. Mais je pense que la fille cool, c'est un concept directement hérité du patriarcat pour qu'on muselle nos besoins et exigences qui sont bien légitimes, qui ne sont pas des trucs d'hystérique. La fille cool, c'est la fille belle, qui reste baisable, qui rigole de tout, même des pires humiliations. Et je pense que ce totem qu'on nous pousse à essayer d'atteindre est liberticide, il est même irrespectueux pour nous-mêmes.
Oui.
Donc en fait, le patriarcat conditionne au fait que les hommes feignent le détachement, le non-besoin d'affect, et les femmes s'auto-censurent pour avoir l'air cool.
Nickel.
Ah, super.
Mais c'est pas inéluctable, et il suffit sur chaque fois qu'un homme ose dévoiler ses sentiments et qu'une femme ose venir voir et dire ce qu'elle connaît de son fort intérieur et donc ce qu'elle veut, dit Mona Chollet.
Et Mona Chollet toujours évoque une étude menée au Royaume-Uni par Wendy Langford, dans les années 90, avec, auprès des femmes hétéros de classe ouvrière et moyenne sur l'amour. Elle s'est aperçue que souvent, c'était le même schéma. Rencontre, c'est la révolution, tu trouves l'homme de ta vie. L'amour du début fait que chacun s'affranchit de ses limites, de son conditionnement genré. Et les femmes se montrent...
Donc les femmes, ouais, se montrent indépendantes, audacieuses.
Les hommes n'ont pas peur de parler de leurs sentiments.
Et chacun s'émerveille donc de cet être si spécial et si hors norme.
Ah non, mais moi, il n'est pas pareil, il est différent. Il est vraiment différent.
C'est ça.
Cette période de bonheur, c'est le bonheur, en fait. Et
elle est marquée
par... une avancée personnelle marquante. Mais ensuite, c'est la désillusion. Tout s'effondre.
Super. Coup dur.
Les femmes qui ont eu l'impression de n'avoir tout à coup besoin de personne s'aperçoivent que ce sentiment venait paradoxalement du regard valorisant qu'un homme posait sur elles.
Et cet homme s'aperçoit que cette femme intrépide qu'il admirait a finalement besoin de lui, a des demandes affectives.
Effrayé, il se replie sur lui comme un petit animal torturé.
Et du coup, elle conclut « À la révolution de l'amour, avec sa grande libération d'énergie réprimée, succède une contre-révolution. » Eh ben nickel, allez.
Ça donne trop envie. T'sais, après, on se demande pourquoi on n'a pas envie de se lancer dans des relations.
C'est ça, c'est ciao.
Franchement, la désillusion, elle m'a fumée. C'est la désillusion.
Et dans son livre, Mona Chollet, d'ailleurs, du coup, petit aparté, mais le livre dont on parle de Mona Chollet depuis le début, c'est « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». C'est très très bien, lisez-le. Et du coup, dans son livre, Mona Chollet parle également des violences conjugales, du couple toxique, et elle se demande si c'est pas finalement, en fait, la construction du couple hétérosexuel de la société poussée au paroxysme, en fait.
Ouais, comme en fait l'aboutissement logique de ces relations
qui sont
déséquilibrées et genre ouais.
Mais après, ce sujet mérite
aboutissement
un...
logique, bon.
Oui, voilà. Non.
Mais on justement... s'entend, hein, bien sûr, c'est la suite. On va dire que si on prend le continuum des violences qu'on peut faire, c'est la suite d'une relation hétérosexuelle déséquilibrée au plus haut point, quoi.
Ouais, voilà.
Et les conséquences du patriarcat.
Elle parle poussée au paroxysme, enfin voilà. Et je pense que oui, en fait, on peut aussi le voir à partir du moment où tu vois, même on parlait des relations affectives et tout, enfin ça fait vraiment souffrir beaucoup de meufs que le mec en face, il est pas...
Moi j'ai des copines qui sont des fois avec juste attendre un message pendant 4 jours, tu vois.
Ouais.
C'est, tu vois, genre, c'est des trucs, en vrai, le gars, ça lui prend 3 secondes de répondre ou de passer un coup de fil. Et,
il pense même pas, quoi.
Mais il y pense même pas, parce qu'il pense même pas au fait que ça puisse faire mal.
Triste époque. Ça, je sais pas si c'est l'époque, mais...
Je pense qu'on est plutôt dans une époque qui va être amenée à nous élever un petit peu là-dessus. On va petit à petit réussir à bouger.
Oui, et je pense que vraiment, enfin moi j'ai l'impression en tout cas que les mecs commencent à s'ouvrir un peu plus à leurs sentiments et à les assumer.
Parce que déjà on commence à parler du fait qu'ils en aient.
c'est que ça. Puis même, du coup, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Enfin, de voir que ça bouge un peu, ça fait du bien. Et c'est agréable, et la communication et tout ça, je vais le dire à chaque épisode, en fait.
Parlez entre vous, s'il vous plaît.
Parlez de vos émotions, parlez de tout, parlez de ce qui se passe dans votre tête, parlez. Ça aidera l'humanité.
Oui.
Voilà. Mais du coup, la prochaine fois, on pourra parler, ouais, des violences conjugales.
Et des relations toxiques et de ouais. tout ça.
Voilà. Encore
ça
un épisode
marche.
De joie.
Oui. Peut-être qu'on pourra trouver des idées pour que ça ne se reproduise pas. Peut-être qu'on va pouvoir avancer un projet qui sera le nôtre.
Parce que c'est notre
projet. Pour empêcher des relations de devenir toxiques. Voilà. On se dit au mois prochain.
Allez, vas-y.
Eh bien, ciao. C'est ciao.